Chapitre 11. Un ou deux jours plus tard, le colonel Melchett et le superintendant Harper échangeaient un regard par-dessus le vaste bureau du premier. Harper était venu à Much Benham en consultation.
« En gros, » dit Melchett d'un air sombre, « nous savons où nous en sommes, ou plutôt, où nous n'en sommes pas. »
« Où nous n'en sommes pas » me paraît la formulation la plus adéquate, colonel.
« Nous avons deux morts à prendre en considération, » reprit Melchett. « Deux meurtres, Rubikin et la petite Pamela Reeves. Il ne restait pas grand-chose pour l'identifier, la pauvre gosse, mais suffisamment quand même. Ce soulier a été formellement reconnu par son père comme lui appartenant. Et puis, il y a ce bouton d'uniforme d'éclaireuse. » C'était affreux, surintendant.
« Je suis bien d'accord avec vous, colonel, » répondit posément Harper.
« Ce qui me soulage, c'est de savoir qu'elle était morte avant qu'on ait mis le feu à la voiture. La position dans laquelle elle gisait, jetée au travers du siège arrière, le prouve. On l'avait sans doute assommée avant, la pauvre gosse.
« Ou étranglée, » suggéra Harper.
« Vous croyez ?»
demanda Melchett, brusquement intéressé. « Certains assassins donnent dans le crime en série. »
« Je sais. »
« J'ai vu les parents. La mère est anéantie. C'est moche, cette histoire. » Le colonel hocha la tête.
« Ce que nous devons établir à présent, c'est s'il y a un lien entre les deux meurtres.
J'en mettrai ma main au feu. »
« Moi aussi. »
Le superintendant énuméra les différents éléments. Pamela Reeves s'est rendue à un rassemblement d'éclaireuses sur les dunes de Danebury. D'après ses camarades, elle semblait normale et gaie. Au lieu de rentrer avec trois d'entre elles par le car de Manchester, elle leur a dit qu'elle allait au Woolworths de Danemouth et qu'elle prendrait le car de là. Entre les dunes et Danemouth, la route fait un grand détour par l'intérieur des terres. Pamela Reeves a coupé à travers deux champs et pris un sentier qui l'amenait à Danemouth, au niveau du Majestic. Le sentier, en fait, longe l'hôtel par l'ouest. Il est donc possible qu'elle ait vu ou entendu quelque chose. Quelque chose concernant Rubikin, et qui pouvait être accablant pour le meurtrier. Qu'elle ait entendu fixer rendez-vous à Ruby à 23h, par exemple. Il se rend compte que cette écolière a surpris leur conversation, et qu'il doit donc la réduire au silence.
« Ce qui supposerait que l'assassinat de Rubikin était prémédité, »
déduisit le colonel Melchett. Le superintendant Harper en convint. « Je crois qu'il l'était, colonel. Les apparences tendraient à prouver le contraire. Soudain accès de violence, crise passionnelle ou de jalousie. Mais je commence à penser que tel n'a pas été le cas. Je ne vois pas autrement comment expliquer la mort de la petite Reeves. » Si elle avait été témoin du crime lui-même, il aurait été tard dans la nuit, plus de 23h. Qu'aurait-elle fait près du Majestic à une heure pareille? D'autant que ses parents s'inquiétaient déjà de ne pas l'avoir de retour à 21h.
L'autre possibilité étant qu'elle soit allée retrouver à Danemouth quelqu'un que ni ses parents ni ses amis ne connaissent, et que sa mort n'ait rigoureusement rien à voir avec le premier meurtre.
Oui, colonel, mais je n'y crois pas. Voyez comment même cette vieille fille, Miss Marple, a tout de suite fait le rapprochement. Sa première réaction a été de demander si le corps retrouvé dans la voiture brûlée était celui de la petite éclaireuse disparue. Drôlement perspicace, la petite dame. Ces vieilles personnes sont parfois futées comme pas deux. Elles ont au fait de mettre le doigt sur le point capital.
« Miss Marple n'en est pas à son coup d'essai, »
grinça Melchett. « Par-dessus le marché, colonel, il y a la voiture. Ça aussi, ça établit un lien entre sa mort et l'hôtel Majestic. Elle appartenait à George Bartlett. » Les regards des deux hommes se croisèrent de nouveau.
« George Bartlett ?»
fit Melchett.
« Ça n'a rien d'impossible. Qu'en pensez-vous ? »
Harper reprit son énumération méthodique des faits. C'est avec George Bartlett que Rubikin a été vu pour la dernière fois.
Il affirme qu'elle est allée dans sa chambre, ce qui s'est confirmé par la présence de la robe qu'elle avait portée jusque-là. Mais est-ce pour sortir avec lui qu'elle est montée se changer? S'était-il donné rendez-vous à l'avance? En avait-il discuté avant le dîner? Mettons, ce qui rendrait plausible que Pamela Reeves ait pu surprendre leur conversation par hasard.
Il n'a signalé la disparition de sa voiture que le lendemain matin, dit Melchett. Encore est-il resté très vague sur le sujet et a-t-il prétendu ne pouvoir se rappeler avec précision depuis quand il ne s'en était plus servi?
C'est peut-être une manœuvre de sa part, colonel. Pour moi, c'est soit un petit jeune homme très malin qui joue les imbéciles, soit alors le roi des imbéciles.
Ce qu'il nous faut, dit Melchett, c'est un mobile. Pour l'instant, nous ne lui en connaissons aucun pour le meurtre de Rubikine.
Oui, c'est là-dessus que nous butons à chaque fois. Le mobile. La piste du palais de la danse de Brixwell n'a rien donné, je crois.
Rien du tout. Ruby n'avait pas de petit ami régulier. Flemm a mené son enquête à fond. Rendons-lui cette justice, au moins est-il consciencieux.
Consciencieux, colonel, c'est le mot.
S'il y avait quoi que ce soit à dénicher, il l'aurait déniché. Mais là, rien. Il a obtenu une liste des plus fréquents partenaires de danse de la fille. Tous ont été interrogés et reconnus blancs comme neige. Des types qui ne feraient pas de mal à une mouche et qui ont tous un alibi pour cette nuit-là.
Ah, gémit le superintendant Harper. Les alibis. C'est là que le bât blesse. Melchett le foudroya du regard.
Vraiment? Je vous ai pourtant confié cette partie de l'enquête.
Oui, colonel. Et je m'en suis occupé à fond. Très consciencieusement, moi aussi. J'ai même été jusqu'à solliciter l'aide de Londres à ce sujet.
Et alors?
Monsieur Conway Jefferson s'imagine peut-être que Monsieur Gaskell et Madame Jefferson sont confortablement pourvus. Mais ce n'est pas le cas. En fait, ils tirent tous les deux le diable par la queue.
Vous êtes sûr de ce que vous dites?
Tout à fait, colonel. Conway Jefferson a effectivement, comme il l'a dit, fait don de grosses sommes d'argent à son fils et à sa fille lorsqu'ils se sont mariés. Mais ça remonte à plus de 10 ans. Le fils s'imaginait le roi du bon placement. Sans faire d'opérations vraiment désastreuses, il a joué de malchance et plusieurs fois manqué de jugeote. Ses titres n'ont cessé de dégringoler, au point que sa veuve a eu toutes les peines du monde à joindre les deux bouts et à inscrire son fils dans une école convenable.
Mais elle n'a pas sollicité l'aide de son beau-père.
Non, autant que je sache, elle vit avec lui et n'a donc rien à débourser pour tenir la maison.
Son état de santé est d'ailleurs tel qu'on estime qu'il n'en a plus pour longtemps.
C'est exact, colonel. Monsieur Mark Gaskell, à présent. Lui, c'est tout bonnement un flambeur. Il a eu vite fait de dilapider l'argent de sa femme. Il est à présent endetté jusqu'au cou. Il a désespérément besoin d'argent, de beaucoup d'argent.
Je dois dire que sa tête ne me revient pas vraiment, admit Melchett. Elle est à vous donner froid dans le dos, vous ne trouvez pas? Et puis, il a un mobile. Se débarrasser de cette fille, ça représentait pour lui 25 000 livres. Valable comme mobile, non?
Ils ont tous les deux un mobile.
Je ne soupçonne pas, Madame Jefferson.
Je sais, colonel. Quoi qu'il en soit, ils ont un alibi commun. Ils ne peuvent pas avoir fait le coup, tout simplement.
Vous avez le détail de leurs faits et gestes ce soir-là?
Oh oui. Prenez Monsieur Gaskell, tout d'abord. Il a dîné avec son beau-père et Madame Jefferson. Il prenait le café lorsque Ruby Keane les a rejoints. Après, il a prétendu avoir des lettres à écrire et les a quittées. En fait, il a pris sa voiture pour aller faire un tour jusqu'au front de mer. Il m'a avoué très franchement ne pas pouvoir supporter de rester toute une soirée à jouer au bridge. Le beau-père adore, lui. Alors il a pris prétexte de son courrier pour s'esquiver. Ruby Keane est restée avec les autres. Mark Gaskell est rentré au moment où elle dansait avec Raymond. Après l'exhibition, Ruby est revenue prendre un verre avec eux, puis elle est allée danser avec le jeune Bartlett. Gaskell et les autres ont tiré les équipes et ont commencé leur bridge.
Il était 22h40 et il n'a pas quitté la table avant minuit passé. Il n'y a aucun doute là-dessus, colonel. Tout le monde le confirme. La famille, les serveurs, tout le monde. Il est donc impossible que ce soit lui. L'alibi de Madame Jefferson est identique. Elle n'a pas quitté la table non plus. Ils sont donc tous les deux hors de cause. Le colonel Melchett se carra dans son fauteuil et se mit à tapoter sur son bureau avec un coupe-papier. Si tant est que la fille soit bien morte avant minuit, précisa Harper.
Haydock l'affirme. Et c'est un garçon sérieux, quand il dit blanc, ce n'est pas noir.
Quelque chose aurait pu l'induire en erreur? Santé, particularité physique de la victime, que sais-je?
Je vais lui en parler.
Melchett consulta sa montre, décrocha le téléphone et demanda un numéro.
À cette heure-ci, il devrait être chez lui. Bon, à supposer qu'elle ait été tuée après minuit.
Alors il y aurait une possibilité. Il y a eu pas mal d'allées et venues dans l'hôtel après cette heure-là. Imaginons que Gaskell ait demandé à la fille de le retrouver dehors à un endroit quelconque, à minuit 20, mettons. Il s'éclipse une ou deux minutes, l'étrangle, revient et se débarrasse du corps aux premières heures du matin.
Et il fait une quarantaine de kilomètres avec elle en voiture pour la déposer dans la bibliothèque de Bantry. Allons, ça ne tient pas debout.
Non, bien sûr, reconnut immédiatement Harper. Le téléphone sonna. Melchett décrocha.
Allô? C'est vous, Haydock? Ruby Keene. Serait-il possible qu'elle ait été assassinée après minuit?
Je vous ai dit qu'elle était morte entre 22h et minuit.
Je sais, mais c'est toujours un peu élastique, hein?
Non, ça n'est pas élastique. Quand je dis qu'elle a été tuée avant minuit, ça veut dire avant minuit. La réalité médicale est incontournable.
D'accord, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir certains paramètres physiologiques, des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire?
Je vois surtout que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Cette fille était en pleine santé et n'avait rien d'anormal. Je ne vais tout de même pas affirmer le contraire, rien que pour vous aider à passer la corde au cou à un pauvre bougre que vos autres flics avaient dans le collimateur. Allons, ne protestez pas, je connais vos méthodes. Au fait, la fille n'était plus en possession de ses moyens quand elle a été étranglée. Je veux dire par là qu'on l'avait préalablement droguée. Un puissant narcotique. Elle est morte par strangulation, mais elle avait d'abord été droguée.
Et Haydock raccrocha.
Eh bien, autant pour nous,
lâcha amèrement Melchett. Harper reprit le fil de son discours. En dehors de ça, je pensais avoir trouvé un autre début de piste, mais ça n'a rien donné.
Lequel?
Administrativement, ce serait un client à vous, colonel. Il s'appelle Basil Blake. Il habite dans votre secteur, près de Gossington Hall.
Ce jeune blanc-bec mal embouché,
se renfrogna Melchett, qui n'avait toujours pas digéré l'impudence de Blake.
Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire?
Il semble qu'il connaissait Ruby Keene. Il dînait assez souvent au Majestic, et il dansait avec la fille. Vous vous rappelez ce que Josie a dit à Raymond quand on s'est aperçu de la disparition de Ruby? Elle ne serait pas avec ce type qui fait des films par hasard. J'ai découvert qu'elle songeait à Blake. C'est un employé des studios Lemville. Josie pense que Ruby avait un petit faible pour lui, mais elle n'en sait pas plus.
C'est une piste prometteuse, Harper. Très prometteuse.
Pas autant qu'il n'y paraît, colonel. Blake assistait à une soirée dans des studios cette nuit-là. Vous savez, ce genre de truc qui commence à 20h avec des cocktails et qui s'éternise jusqu'à ce que l'air devienne si épais qu'on n'y voit plus rien et que tout le monde est ivre-mort. D'après l'inspecteur Flemme qui l'a interrogé, il aurait quitté les lieux vers minuit. À cette heure-là, Ruby était déjà morte.
Il y a quelqu'un pour confirmer ces dires?
J'ai l'impression que la plupart étaient... complètement sous, colonel. La jeune personne qui est maintenant chez lui, mademoiselle Dina Lee, a confirmé.
Ce qui ne prouve strictement rien.
Non, bien sûr. La déposition des autres participants à la soirée vont en gros dans le sens de celle de M. Blake, mais reste très floue quant aux heures.
Où se trouvent ces studios ?
À Lemville, colonel, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Londres.
À peu près la même distance que d'ici ?
Oui. Le colonel Melchett se frotta le nez.
Bon, j'ai l'impression qu'il faut l'écarter lui aussi, dit-il presque à regret.
Je crois, oui. Il n'y a aucune preuve qu'il ait sérieusement été attiré par Rubikin. En fait, Harper toussota d'un air guindé. Il paraît déjà avoir suffisamment à faire avec la jeune personne précitée.
Bon, reprit Melchett, reste en piste X, meurtrier inconnu, tellement inconnu que Flem n'en retrouve même pas trace, puis le gendre de Jefferson, qui aurait eu un mobile pour tuer la fille, mais pas l'occasion. Idem pour la belle-fille, puis George Bartlett, qui n'a pas d'alibi, mais hélas, pas de mobile non plus. Puis le jeune Blake, qui a un alibi et pas de mobile. Voilà, la liste est close. Non, attendez. Je pense qu'on pourrait y ajouter le danseur mondain, Raymond Starr, car après tout, il était souvent en contact avec elle.
Je ne peux pas croire qu'il s'intéressait vraiment à elle. Ou alors, c'est un sacré comédien. Et puis, concrètement, lui aussi a un alibi. Il est toujours resté plus ou moins en vue entre 22h40 et minuit, où il a dansé avec plusieurs partenaires. Je ne pense pas qu'on puisse aller bien loin avec lui.
En fait, soupira Melchett, on ne peut aller bien loin avec personne.
George Bartlett reste notre meilleur espoir. Si au moins nous pouvions lui trouver un mobile.
Vous avez des renseignements sur son compte ?
Oui, colonel. Fils unique, couvé par sa mère, a hérité une coquette somme d'argent à la mort de celle-ci il y a un an, qu'il est en train de dépenser allègrement. Plus faible que méchant.
Un détraqué, peut-être,
suggéra Melchett avec espoir. Le superintendant Harper hocha la tête. Vous est-il venu à l'idée que ce pourrait être l'explication de toute l'affaire, colonel ?
Les crimes d'un sadique, vous voulez dire ?
Exactement. Un de ces maniaques qui étranglent des mineurs. Les médecins ont un nom très compliqué pour ça.
Ce serait la solution à tous nos problèmes, évidemment.
Il y a juste une chose qui m'ennuie, dit Harper.
Quoi donc ?
C'est trop facile.
Ouais, peut-être. Bon. Alors, comme je le disais au début, où en sommes-nous ?
Nulle part, colonel, répondit le superintendant.